Généalogie naturelle pour le père Philippe à Saint-Joseph le 20 juin 85.
Bon, on va essayer de comprendre. Nous avons dit que la vie n'est pas créée, mais que la vie est communiquée de Dieu. C'est du reste le terme, n'est-ce pas, de cette émanation. C'est très curieux que les théologiens ont gardé le point de vue de l'émanation. L'émanation a l'avantage de ne pas préciser. C'est un terme néo-scolastique. Ça ne doit pas la garder. Et c'est, je crois, pour que, de fait, on dise moins l'aspect création comme tel. N'est-ce pas, voir de la même manière pour l'âme spirituelle qui est principe de vie. Non, l'âme spirituelle est créée. Ah, j'ai insisté, si vous n'avez pas compris, j'ai insisté que l'âme spirituelle, que la vie est communiquée, et que l'âme spirituelle implique un acte particulier de Dieu. Et ça, c'est de foi. Notre foi est engagée là-dedans. C'est l'enseignement de l'Église. Vous n'avez pas le droit de dire « Ah non, mais oui, c'est les parents qui communiquent l'âme spirituelle. » Les parents ne communiquent pas l'esprit. L'âme spirituelle est donnée par... Les parents communiquent la vie. Alors, il y a une coopération qui est très difficile à comprendre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est très difficile. C'est pas un mystère. Le philosophe doit essayer de comprendre. Parce que ce que l'Église dit, hein, c'est préambula fidei, que l'âme spirituelle est créée par Dieu. Le philosophe doit le dire. Aristote a cette petite remarque, hein, je dis Aristote parce que c'est un témoin en dehors de la révélation. Il dit l'âme humaine vient exo, en dehors. C'est pas les parents. Tandis que le petit chien, il reçoit tous ses parents. Le petit chien est plus dépendant de ses parents que nous, nos propres parents. C'est extraordinaire. Parce que pour le petit chien, il n'y a que le gouvernement divin. La vie se transmet. Et si la vie était créée, on ne pourrait pas comprendre la communication vitale des parents à l'égard des sources, à l'égard de leurs petits. C'est très curieux, ça. C'est pour ça que c'est si important de bien préciser ces choses-là, parce que c'est quand même... Et je crois que des quantités de confusion proviennent de ce point de vue-là. Or, de fait, nous avons dit que l'âme spirituelle est née et créée directement par Dieu. La vie n'est pas créée, l'âme est créée. Ces deux affirmations, est-ce qu'elles ne se contredisent pas? Non, elles ne se contredisent pas. Puisque d'un côté c'est l'esprit, de l'autre côté c'est la vie. Ah, ne confondez pas l'esprit et la vie. Si vous êtes hégélien, vous confondez. Si vous n'êtes pas hégélien, vous ne confondez pas l'esprit et la vie. La vie est communiquée par Dieu et l'esprit est créé par Dieu. Et l'esprit implique la vie. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais Dieu regarde toujours par le sommet. C'est vous qui regardez par la base. Bon. Alors vous voyez la vie, vous dites, ben la vie, mais oui, l'âme est avant tout principe de vie. L'âme spirituelle est premièrement esprit. Et cet esprit se réalise dans le corps. Et c'est pour ça que de fait, cette âme spirituelle est principe de vie et de vie biologique. N'est-ce pas ? Une vision de sagesse, c'est toujours, vous savez, comme le gosse qui regarde à travers ses jambes, hein, il regarde l'horizon, tout est inversé, c'est comme ça. Nous sommes tellement habitués, nous, de regarder les choses selon l'ordre génétique, subitement on doit tout inverser et on regarde tout par Dieu. Même philosophiquement, on regarde tout par Dieu. On regarde tout dans la lumière de Dieu, dans la lumière de la simplicité de Dieu, dans la lumière de la perfection de Dieu, dans la lumière de la bonté de Dieu. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a là quelque chose de merveilleux. C'est là où notre esprit seul comprend pourquoi la philosophie. Oui, d'aboutir uniquement à un jugement de sagesse, mais c'est satisfait tous nos efforts. Alors évidemment, la philosophie qui n'aboutit pas à ça, c'est un marécage qui la plupart du temps ne cherche la limpidité que dans la logique. Vous avez deux clartés, la clarté lunaire de la logique et la clarté solaire de la jugement de sagesse. Si vous n'avez pas la clarté de la jugement de sagesse, vous vous rabattez sur la lumière lunaire, et souvent c'est le premier quartier de la logique, et vous n'allez pas plus loin. Or, donc, alors je continue. Ces deux affirmations, est-ce qu'elles ne sont pas, elles ne se contredisent pas? Ou est-ce qu'elles ne se situent pas à des niveaux différents? La vie est au niveau de l'exercice, l'âme étant un prince étant au niveau de l'être. C'est ni l'un ni l'autre. La vie est au niveau de... La vie se communique. Oui, Dieu communique la vie. La vie est au niveau de l'exercice, c'est évident, mais la vie implique aussi un principe de vie. Il y a un principe de vie. Il y a, l'animal a une petite substance. Il a une petite âme, l'animal. Vous n'avez qu'à penser à l'âme de la vache. C'est extraordinaire, l'âme de la vache. Ça anime cet animal en lui faisant qu'il a une organisation particulière et une autonomie particulière. Et la vache sait très bien son autonomie. Instinctivement, pas d'une conscience limpide, mais instinctivement, l'instinct de la vache. C'est beau l'instinct des animaux, vous savez, c'est extraordinaire. L'instinct des animaux, c'est fort, déterminé à Dunum. Puisque c'est déterminé à Dunum, il y a donc un principe. Nécessairement. Donc la vie implique un principe. Mais ce principe est communiqué par la matière. Il est communiqué par la matière. Dieu communique la vie. Dieu ne crée pas la vie biologique. Et génétiquement, Dieu a communiqué la vie animale avant de communiquer l'esprit. Génétiquement, ça c'est sûr. Il y a des animaux invraisemblables avant que l'homme n'ait apparu. Ça c'est pas gênant du tout. Dieu n'a pas commencé par créer... Vous voyez, il y a les deux récits de la Bible. Hein. Et les deux récits de la Bible sont très curieux, parce que selon le premier récit, Dieu a d'abord créé les poissons, les petits oiseaux, et puis après, il a créé l'homme. Il a créé l'homme, puis la femme. Il a créé, je veux dire, les deux. Selon l'autre principe, l'autre texte, il a créé tout de suite l'homme. Et pour l'homme, il a créé tous les autres animaux. Alors ça, c'est l'ordre de perfection. Et c'est quand même très curieux que l'Esprit Saint nous a donné deux ordres. Un ordre génétique et un ordre de perfection. C'est quand même très beau, ça. Alors que philosophiquement, je redécouvre ça, c'est merveilleux. Vous voyez, il y a comme une espèce de confirmation, c'est ça qui me frappe de plus en plus. Plus on lit l'Écriture, plus on voit que l'Écriture confirme une philosophie réaliste. Et que s'il n'y a pas cette philosophie réaliste, alors on ne comprend pas, on peut expliquer ça n'importe comment, évidemment, on peut expliquer ça matériellement, mais si Dieu exprime, a le besoin de nous donner deux ordres, un ordre génétique et un ordre de perfection, ça doit correspondre à quelque chose de très profond. Et ce très profond, c'est justement ce que le philosophe découvre. Il y a un ordre génétique et un ordre de perfection. Et vous voyez, c'est peut-être cela qui montre le mieux la différence entre la science et la sagesse. La science d'aujourd'hui. Je crois que le savant n'a pas deux ordres. Ce serait intéressant de savoir ça. Dans quelle mesure la connaissance scientifique moderne peut avoir deux ordres, un ordre génétique et un ordre de perfection? Je ne crois pas que le savant puisse. Puisque pour avoir un ordre génétique et un ordre de perfection, il faut avoir distingué le devenir et l'être. Si je n'ai pas distingué le devenir et l'être, je ne peux pas comprendre l'ordre génétique et l'ordre de perfection. C'est parce que l'intelligence, à travers le devenir, cherche toujours l'être. C'est pour ça qu'il y a deux ordres. Et c'est pour ça qu'il y a une partie scientifique et une vision de sagesse. La vision de sagesse, c'est le point de vue de la perfection. Et tant que je ne suis pas arrivé à cette vision de sagesse, mon esprit, mon intelligence n'est pas satisfaite. Il faut arriver à cette vision de sagesse pour découvrir justement cet ordre de perfection. L'analyse philosophique, métaphysique, l'analyse de la science implique toujours un ordre génétique. Pas uniquement un ordre génétique descriptif, un ordre génétique avec l'induction et la saisie des principes, c'est évident. Mais c'est quand même un ordre génétique. L'induction est dans l'ordre génétique. Je passe du visible à l'invisible. C'est génétique, ça. Tandis que la sagesse, elle, part directement de ce qui est parfait. Je contemple ce qui est parfait. Je contemple l'être de Dieu. Alors, vous voyez, c'est ça qui est important à bien comprendre dans tout ce que nous essayons de faire, ce que nous avons essayé de faire cette année-ci. Parce que c'est quand même tellement, tellement important de comprendre que dans cette vision de sagesse, vous avez, d'une part, la contemplation de la manière d'exister, de l'être premier, et la manière d'exister, de l'être participé. Et parmi les êtres participés, l'homme. Est le premier parmi les êtres participés. Il est le lion d'être participé. Le lion est comme on disait hier avec Nietzsche, le lion est l'enfant. Il est les deux en même temps. L'être participé. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Et la théologie naturelle, donc sagesse, nous donne la structure. Autant que je peux le savoir, la structure de l'être premier. Et cette structure de l'être premier m'est donnée avec les sept, c'est curieux que j'arrive à sept, hein, les sept attributs de l'être premier. Simplicité, perfection, volonté, infini, immensité, saisir ces sept. C'est pas pour rien qu'on retrouve le chiffre 7. Hein. La structure de l'être premier, 7. Et par le fait même, la structure de l'être participé, 7. Les sept dimensions de l'homme dans la lumière même de la sagesse. C'est au fond quand même très beau. Et parallèlement, alors si je passe en théologie mystique, parce que ça c'est de la sagesse, puisque nous devons toujours regarder nos trois sagesses, hein, ça fait partie de notre structure de la communauté Saint-Jean, les trois sagesses. Hein, tant que je n'ai pas atteint les trois sagesses, je n'ai pas compris. Alors les trois sagesses, ça c'est la sagesse acquise, c'est la philosophie, elle est très grande. J'aboutis à ça. Et tant que je n'ai pas abouti à ça, je ne sais pas ce que c'est que la sagesse philosophique. La sagesse philosophique me fait comprendre, c'est ça. Alors, ça c'est au niveau de l'être, après il y a au niveau de la vie. Et alors les attributs, les sept attributs de Dieu au niveau de la vie, parce que ça c'est l'être premier, puis la vie. La vie est l'esprit en Dieu. Il n'y a pas de vie biologique en Dieu. Il y a la vie qui est esprit. Et alors, vous avez les sept du côté de l'esprit. Je ne le vois pas maintenant, mais c'est important à voir aussi. Vous voyez, nous avons vu ça, à peu près, et c'est important de le comprendre. Puis vous avez parallèlement les sept dimensions de l'homme. La composition, la perfection limitée, la bonté, et ainsi de suite, hein, dans la lumière des sept. Aujourd'hui, théologie mystique, sagesse mystique. Vous voyez qu'à sagesse théologique, parce que c'est les deux extrêmes qu'il faut toujours voir. Ça, c'est le premier génétiquement, et celui-ci, c'est le premier dans la perfection. La sagesse mystique, elle est au niveau de l'amour. Pas au niveau de l'être, elle est au niveau de l'amour. Et vous devez saisir les sept structures de l'amour. Et les sept structures de l'amour, c'est les sept dons du Saint-Esprit. C'est si important d'étudier les sept dons du Saint-Esprit. C'est toute la structure de l'amour. Et vous n'avez pas de possibilité de faire une théologie mystique indépendamment des sept dons du Saint-Esprit, la structure de l'amour. Et ces sept dons du Saint-Esprit nous sont donnés d'une façon visible en nous introduisant dans l'invisible, dans le cœur blessé de Jésus. C'est saisir dans le cœur blessé de Jésus, qui est la grande révélation de l'amour, les sept dons de l'Esprit Saint. Alors c'est quand même très curieux. Et là il y a une question intéressante, qui serait très intéressante à voir, c'est la correspondance de ces sept. Il y a sûrement une correspondance, ça ne peut pas être autrement. Le pourquoi des sept dons du Saint-Esprit, on doit se poser la question. Alors, c'est très vrai de dire, c'est le chiffre 7. Oui, très bien, mais ça n'explique rien du tout. Hein. Le chiffre 7, c'est très très bien, pythagoricien, chiffre parfait. Et après tout, il est parfait parce que c'est la structure de l'être premier. C'est pour ça. Fondamentalement, c'est ça. Et pour nous, dans la révélation, c'est l'amour. Alors, entre deux, vous voyez, la sagesse théologique. La sagesse théologique acquise. La sagesse théologique acquise. La scène de saint Thomas. Toujours entre les deux. C'est un métaxu entre les deux. Quelle est la structure, alors c'est ça qui serait intéressant, quelle est la structure de la somme théologique de saint Thomas? Vous voyez qu'il y en a deux. Il y a deux structures de la somme théologique de saint Thomas. Il y a la structure de l'être premier, c'est évident. Saint Thomas assume ça. Il assume. Il le dit. C'est lui qui l'a dit, donc il l'assume. Parce que ça, je peux le dire au niveau philosophique. Simplicité, perfection, bonté, infini, immensité, immutabilité, éternité. C'est la première structure de la théologie acquise. Et la seconde structure de la théologie acquise, c'est le mystère du Verbe incarné. Et alors c'est très curieux, parce que vous avez donc Dieu, la structure des sept, le Verbe incarné, toute la structure de la somme. Prima pars, seconda pars, tertia pars. Et comme c'est curieux. Et vous avez cette structure de la théologie acquise qui, au fond, implique le lien avec la structure de la sagesse philosophique. Par le Verbe incarné, vous devez terminer dans la sagesse mystique, une langue. Il est présent dans la lumière de la sagesse et dans la lumière. Alors ça, ça vous fait comprendre le lien de ces trois sagesses et la structure de ces trois sagesses. Ça, c'est important d'essayer d'y réfléchir, hein, de comprendre cela petit à petit pour que ce ne soit pas simplement « Ah, il y a trois sagesses, oui, on a trois sagesses. » Il faut avoir les trois sagesses. Il faut comprendre que la structure de la sagesse philosophique, elle est fondamentale. Si vous n'avez pas celle-là, vous ne comprenez pas celle-là. Et si vous n'avez pas celle-là, vous ne comprenez pas celle-là. Il faut dire de la compréhension. Je peux évidemment être un mystique sans rien savoir du tout. Ça, Alors, c'est l'avantage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de l'école maternelle. Hein. Il n'a pas besoin des hautes écoles. Il n'a pas besoin de l'école polytechnique, Saint-Esprit. Pas besoin. C'est merveilleux. Ils sont au-dessus. Ils remplacent tout. Mais le Saint-Esprit aime bien que nous allions à l'école. Parce qu'autrement, nous serions des enfants gâtés. Et le Saint-Esprit n'aime pas les enfants gâtés. Alors, si le Saint-Esprit nous donne la capacité de connaître, il le veut. Autrement, nous faisons des enfants gâtés. Alors, c'est très très beau. Il y a un petit printemps. Il y a un petit printemps merveilleux. Il y aura les gelées de la fin du printemps. Si nous sommes un enfant gâté, Saint-Esprit ne continue pas. Il convertit notre cœur au-delà de toutes les écoles. Mais il veut que nous convertissions notre intelligence pour que nous puissions aimer plus. Ça, c'est très net. C'est tout le temps comme ça que fait Saint-Esprit. Alors, on voit très bien, quelquefois, des promesses merveilleuses. Le Saint-Esprit, il supplée à tout. C'est merveilleux. Alors, j'ai besoin de rien. Je suis entré dans l'horizon. Moi, l'horizon, c'est ma respiration habituelle. Dès que je suis en horizon, je suis chez moi. C'est extraordinaire. Je respire merveilleusement. J'ai besoin de rien. Mais j'ai le Saint-Esprit. Ah oui, très bien. Attendez la fin du printemps. Vous allez avoir les gelées, puis il n'y aura plus rien. Pourquoi vous avez fait l'enfant gâté? Le Saint-Esprit veut que nous soyons intelligents pour l'amour. C'est la plus grande chose qu'il nous demande. Alors, sagesse philosophique. Si on peut, il ne demande pas à tout le monde. Hein, mais il le demande à l'école Saint-Jean. Hein? Donc, il faut que nous ayons la sagesse philosophique, la sagesse théologique, et cela pour mieux entrer dans la sagesse mystique. Mais la sagesse mystique n'a pas besoin des autres, c'est bien évident qu'elle n'a pas besoin dans son exercice. Mais pour la structurer, la communiquer, oui. Je ne peux pas communiquer la sagesse mystique sans la sagesse théologique, sans la sagesse philosophique. Oui. Ça, essayez de comprendre ça, essayez de comprendre cette structure, ça me frappe énormément. Et c'est assez beau, du reste, hein, de retrouver cette structure fondamentale. Et c'est donné dans la Somme. Saint Thomas a commencé comme ça. Et Saint Thomas ne nous a pas dit, c'est la structure de l'être premier. Vous voyez, la structure de l'être infini, de l'être premier, la structure de l'homme. La structure au niveau existentiel. Il y a une structure au niveau de l'être, alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. La sagesse, il y a la philosophie première. Donc vous avez la structure au niveau science et la structure au niveau sagesse. Hein. La philosophie première est science. Et la philosophie première est la théologie naturelle et sagesse. Sagesse philosophique. Et cette sagesse philosophique, c'est une structure de l'ordre de l'exister. Tandis que la structure de la philosophie première n'est pas de l'ordre de l'exister. C'est au niveau de ce qui est. Ens. Le dehors. Pas l'exister. C'est l'au-delà de l'exister et de l'essence. Ce qui implique à la fois la structure de la détermination l'ousia, c'est fondamentalement la source de l'essence, hein. Donc c'est la détermination. Et puis l'acte, c'est l'exister. Vous voyez comment la science, la partie première de la philosophie, a une structure toute différente de la sagesse. Et c'est ça qui est intéressant à voir. C'est intéressant de voir que la structure de la philosophie première, donc de la métaphysique, qui regarde ce qui est, elle est commandée par l'analyse de la cause selon la forme et de la cause selon la fin. Puisqu'au niveau de l'être, il n'y a que deux causalités. Donc tout est commandé, la structure de la science, elle est commandée par ça. Ça, c'est la structure de la science de l'être. Et l'être comme tel, est au-delà de la distinction essence et existence. C'est au-delà. C'est pour ça que tout de suite, cette structure de ce qui est implique ousia, substance et acte. Les deux grands aspects qui sont dans l'être. Si je regarde la structure de la sagesse, c'est la structure de l'exister, la manière d'exister. La manière d'exister. Je ne dis pas la manière de l'être, puisque vous ne savez pas ce que c'est que l'être de Dieu. Oui, la science analyse ce qui est et détermine les principes propres de ce qui est. Tandis que quand il s'agit de l'être premier que je découvre, je regarde sa manière d'exister. C'est le komodo, c'est le comment. C'est le pons magistral. C'est le comment de l'être de Dieu. Tandis qu'ici, c'est le tiesti. Qu'est-ce ? Alors vous avez là les deux grandes structures, hein, le tiesti et le pons, le comment. Comment existe l'être de Dieu ? Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que Dieu. C'est en ce sens-là, vous voyez, que les principes philosophiques, vous ne les appliquez pas à Dieu. Dieu est au-delà des principes. Comme Dieu est au-delà de la loi. Ce n'est pas en faisant des lois scientifiques que vous allez connaître Dieu. Hein. Non. Pas du tout. Dieu est au-delà. Il est la source de toute loi. Il est la source de tous les principes. Et vous n'appliquez pas à Dieu le principe. Vous ne connaissez Dieu que par l'exister. Donc, que par la manière d'exister. C'est-à-dire que par l'acte. C'est l'acte qui me permet la manière d'exister. Vous voyez le lien. C'est ça qui est intéressant à essayer de comprendre. Le fondement. Pas de sagesse. Pas de sagesse philosophique sans la science. Sans la philosophie première, science. Alors, ce qu'il faudrait montrer ensuite, c'est montrer la place des mathématiques. Hein? La place des mathématiques et la place des sciences modernes. La place des mathématiques. Le lien entre les mathématiques et la philosophie première. Et comment les mathématiques ont-elles un lien direct avec la sagesse ? Il y a le nombre qui existe. Hein ? Il y a 7. C'est curieux ça. Il y a 7. 7, c'est les mathématiques. C'est le nombre. Le nombre pénètre jusqu'à travers la philosophie, jusqu'à la sagesse. Mais pas directement, vous voyez, pas directement. Les mathématiques ne me disent rien directement de la sagesse divine. Les mathématiciens voudraient beaucoup. Ça, ils voudraient beaucoup. C'est leur rêve. C'est leur grand rêve. Dieu qui serait au cœur des mathématiques. La Trinité, puisqu'elle est trois, au cœur des mathématiques, elle est trois et un. C'est tout la question du nombre qui serait là. Eh bien, non, les mathématiques ne peuvent pas directement rejoindre la sagesse. Les mathématiques ont une place particulière, très difficile à bien préciser, entre la philosophie première et les mathématiques. Et d'une certaine manière, et alors, les mathématiques ne pénètrent pas dans la sagesse mystique. Les mathématiques ne pénètrent pas dans la sagesse théologique. Si ce n'est indirectement toujours le nombre. Très curieux, le nombre pénètre toujours. Alors le nombre, évidemment, je peux évidemment prendre le nombre dans un sens tout à fait sens commun, 7, ou le sens commun. Non, non. Il peut y avoir une certaine philosophie du nombre. Il peut y avoir une certaine, pas une sagesse du nombre, il n'y a pas de sagesse du nombre, mais une philosophie du nombre. Et voir comment elle est au service de la sagesse. C'est par le nombre, c'est très curieux. Et ça, c'est à regarder de près. Alors, il y a une seconde question. Nous disons, il y a donc dans une vision de sagesse, nous disons, il y a intervention de l'acte de Dieu qui crée l'âme spirituelle. Les parents coopèrent en communiquant la vie biologique. Le corps est co-principe d'être, peut-on dire, que les parents, dans une procréation, sont cause seconde d'être et Dieu est cause première. Les parents ne peuvent pas être cause seconde de l'être, ils sont cause seconde de la communication de la vie. Mais c'est évident que c'est un très gros problème, ce qu'il faudrait le regarder dans la sagesse, hein, parce que c'est par là qu'on aurait une vision de sagesse de la famille. Mais nous n'avons fait qu'un point de départ, hein, nous avons regardé que c'est 7 premiers, mais il faudrait compléter toute la vision de sagesse. Hein. Il y a une vision de sagesse politique. Quel est le regard de sagesse au niveau de la politique? Quel est le regard de sagesse au niveau de la famille? Parce que je crois, ça, c'est très délicat. C'est la grande recherche qu'ils font à Lublin, ça. Savoir exactement quelle est la vision de sagesse au niveau politique. Y a-t-il une vision de sagesse au niveau politique? Ou est-ce qu'il n'y a pas de vision de sagesse au niveau politique, mais il y a une vision de sagesse au niveau famille? Des questions qu'on pourra regarder. Parce que c'est intéressant, ça, c'est très intéressant. Posez-vous la question. Il faut prolonger, hein. Nous voyons là le point de départ. Et il faut prolonger cette vision de sagesse à travers toute la philosophie. Toute la philosophie doit être reprise dans une vision de sagesse. C'est tout l'homme qui est repris dans une vision de sagesse. Donc, je dis simplement que dans cette question de la procréation, les parents sont cause propre de la communication de la vie. Et Dieu est cause propre, immédiate, de la création de l'âme spirituelle. À partir de la communication de la vie. Et dans la communication de la vie. Puisque Dieu ne crée pas l'âme en dehors de la vie. De la vie communiquée par les parents. Donc il communique la vie, il crée l'âme spirituelle à partir de cette communication de la vie. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une coopération. Alors je ne dirais pas que les parents sont, vous voyez, cause seconde d'être, ils sont cause seconde de la communication de la vie. Et Dieu est cause propre de l'esprit, et par l'esprit de l'être. Alors vous allez dire, la vie c'est l'être. C'est très vrai. Alors ça c'est le point de vue de la conservation de l'être. De plus, Dieu maintient toutes les réalités existantes dans l'être. Or, les animaux n'ont pas d'âme spirituelle. Quelle est la causalité exacte de Dieu par rapport à eux? Les animaux communiquent la vie, en communiquant la vie, ils communiquent tout. Parce que l'animal ne dépasse pas le niveau de la vie biologique. C'est déjà pas si mal. Hein, il atteint le niveau biologique. Et il reste au niveau biologique. Il n'atteint pas plus. Eh bien, Dieu est celui qui gouverne et qui garde la vie. Et donc la coopération de Dieu, c'est au niveau de la conservation. Ce Pas, Dieu ne crée pas. Il n'y a pas un acte particulier de Dieu quand, un veau est conçu dans le ventre de sa mère. Non. Ça suit les lois normales. Vous voyez, toute la question, alors c'est là où il faut intervenir, toute la question de l'insémination artificielle. Toute la question de la fécondation artificielle. Dans quelle mesure l'art peut intervenir au niveau de la procréation, dans une vision de sagesse, parce qu'il faut regarder ça dans une vision de sagesse, on ne peut pas regarder ça autrement, puisque Dieu est en cause. Donc ça ne peut être que dans une vision de sagesse. Dans une vision de sagesse, est-ce que l'homme intervienne pour l'animal? Ça va de soi, puisque c'est la conservation. Dieu laisse à l'homme la place quand il s'agit de la conservation. Il laisse à l'homme la place, sa place. Mais quand il s'agit de la création, est-ce que l'homme peut intervenir? Une très très grosse question. Et c'est une question que nous devons regarder attentivement, faire attention, parce que de fait, c'est une des questions qu'on posera aujourd'hui et qu'on pose. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir insémination artificielle pour les animaux et pour l'homme? L'Église n'a pas prononcé directement, hein, mais si je regarde attentivement les textes de l'Écriture, les textes de l'enseignement de l'Église, on peut dire que l'Église dit non. Et ça scandalise certains. J'ai vu le scandale de médecins qui disaient « je ne comprends pas du tout ». Parce qu'il regarde que l'efficacité. Au niveau de l'efficacité, je comprends le scandale des médecins. Mais si je regarde plus loin, dans un regard de sagesse, ah, c'est différent. Avec la procréation, on touche un mystère. C'est du sacré, puisqu'il y a intervention directe de Dieu. Tandis qu'il n'y a pas de sacré du côté de la vache. Et du côté de l'araignée non plus. Et du côté du crocodile non plus. Bien qu'ils soient des animaux sacrés. Hein. Vous savez bien que le crocodile est un animal sacré grâce à cause de son silence, comme disent les Égyptiens. Le crocodile, c'est le silence de Dieu. Et là, c'est merveilleux, le crocodile, sous ce point de vue-là. Sauf quand on est dans sa gueule. Alors à ce moment-là, le silence est moins fort. Mais autrement, le crocodile est un animal merveilleux qui montre le silence. Il n'y a pas de sacré chez l'animal, mais il y a un sacré chez l'homme. C'est en ce sens-là que la vie biologique n'est pas sacrée. La vie biologique n'est pas sacrée. La vie biologique, elle est au niveau de la créature. Et la créature, comme créature, n'est pas sacrée. Ce qui est sacré, c'est l'esprit. Si on appelle sacré ce qui est immédiatement relié à Dieu. Il faut quand même essayer de préciser ce que c'est que le sacré. Le profane, c'est ce qui relève des causes secondes comme causes secondes. Et donc qui n'est soumis qu'au gouvernement de Dieu. Tandis que le sacré dépend directement de la causalité première. Et peut être réuni directement à la causalité première. Alors vous voyez, quand il s'agit du gouvernement, Dieu laisse à l'homme sa place. Quand il s'agit de la création, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas, en tant que créateur, dire à l'homme, eh bien oui, on va coopérer. Non, on ne peut pas. Le créateur comme créateur, c'est la toute-puissance de Dieu. Tandis que Dieu, dans son gouvernement, c'est le point de vue de la justice et de la miséricorde. Alors c'est ces problèmes-là qu'il faudrait traiter. Il faudra les traiter. Il faudrait les traiter une fois, parce que c'est très très important, dans une vision de sagesse, où nous voyons le mystère de la procréation et où nous voyons la génération des animaux, quelle est la place possible de l'art? Comment l'homme peut-il intervenir? Et jusqu'où l'homme peut-il intervenir? L'homme ne peut pas toucher le point de départ et le terme de la vie de l'homme. dans ce sens-là, que l'homme n'a pas le droit de l'euthanasie, hein, n'a pas le droit de diminuer la vie de l'homme. Tandis qu'il peut, pour l'animal, hein, un pauvre chien qui a l'air d'agoniser, qui est vieux comme Mathusalem, hein, il a 17 ans. Alors un vieux chien, vous avez le droit de terminer sa vie un peu plus rapidement. Pas de problème moral. Oui, un petit problème affectif vis-à-vis de la grand-mère. Un petit problème affectif vis-à-vis de la grand-mère. Mais autrement, non. Vous avez le droit de le piquer, qui termine sa vie rapidement. Vous avez le droit de supprimer les rats qui sont là et de mettre un poison qui fait que ça se termine rapidement. Vous ne le dites pas, mais vous le faites. Hein. Bon, vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit d'intervenir sur le point de départ et le terme de la vie animale. Vous n'avez pas le droit vis-à-vis de l'homme. C'est du sacré. Parce que par l'esprit, l'homme dépend directement de Dieu. Et c'est là où on touche quelque chose, et c'est là où, vous voyez, la théologie, du moins, c'est là où la vision de sagesse est si importante. Si on n'a pas cette vision de sagesse, on ne peut pas. Et on tombera dans le panneau, on dira, on passe de l'animal à l'homme, après tout c'est biologique. Ah oui, mais le biologique humain est tout à fait différent que le biologique de l'animal. C'est pas le même. La procréation, pour l'homme, c'est pas la même génération que l'animal. La procréation pour l'homme est un mystère. Et il faut le toucher, il faut comprendre que c'est un mystère. La communication de la vie de l'homme est un mystère parce qu'elle fait appel directement à l'intervention de Dieu. Dieu l'a voulu comme ça, il ne nous a pas demandé notre avis, il a voulu que ce soit comme ça. Et c'est révélé. Vous savez bien ce que dit Ève après avoir mis au monde son premier enfant. J'ai enfanté un fils de par Yahvé. C'est une phrase merveilleuse. Hein. J'ai enfanté un fils de par Yahvé. Elle ne dit pas de par Adam, ce ne serait pas un mystère, pas besoin d'être révélé. Mais de par Yahvé, pour que nous comprenions l'alliance fondamentale de l'homme avec Dieu. Oui. Et les tremblements apocalyptiques, c'est quand cette alliance fondamentale n'est plus respectée. Alors là, nous sommes en phase de tremblement apocalyptique, parce qu'on ne regarde plus cette alliance fondamentale. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, hein. Nous assistons à ces tremblements apocalyptiques. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, jusqu'où Dieu laisse l'homme toucher cette alliance, ça on ne peut pas le savoir. Mais nous y sommes. Et ça, personne ne peut supprimer ce signe. Les tremblements apocalyptiques sont actuels, présents dans notre monde. Puisqu'on essaie par tous les moyens de modifier le mystère de la procréation. De le transformer au point de vue artistique. Voilà. C'est important de le saisir. Alors, nous allons continuer, si vous voulez, des derniers aspects, mais continuer en comprenant que nous ouvrons, n'est-ce pas, c'est, quand on est au niveau de la sagesse philosophique, c'est une porte que nous avons ouverte pendant l'année. Nous avons essayé de comprendre quelques aspects, mais il faudrait reprendre toute la philosophie. Cette vision de l'homme au niveau sagesse, les dimensions de l'exister humain, de l'exister, de l'être participé. C'est très très important. Alors, j'étais resté devant cette question, comment se fait-il, pourquoi l'esprit réclame immédiatement la création? L'ange ne peut pas engendrer un autre ange. Dieu ne peut communiquer la capacité de communiquer la vie que par le corps, que par la matière. C'est ça, c'est le point de vue de la vision de Dieu. Vous voyez, et ce serait dans cette lumière-là, parce que je ne l'ai pas dit, je ne vais pas pousser jusqu'au bout, mais ce serait très intéressant de pousser jusqu'au bout, quand je vous ai dit à propos du corps, hein, si Dieu a voulu unir l'esprit et la matière, c'est pour que la créature puisse être source de vie. Ça, c'est sûr. C'est le problème de la fécondité. Pas de fécondité chez les anges. Et puis, deuxièmement, nous avons vu que si Dieu avait uni l'esprit et le corps, c'est pour permettre ou faire que l'amitié puisse se réaliser, qui est un amour d'amitié entre les créatures. Il n'y a pas d'amour d'amitié naturel chez les anges. Réfléchissez beaucoup à ça. Si les anges existent, hein, le philosophe peut se poser la question, puisqu'il y a des traditions angéliques. Alors s'il y a des traditions angéliques, on peut très bien se poser la question, si les anges existent, est-ce que les anges peuvent avoir un amour d'amitié ? Non. C'est le corps qui permet l'amour d'amitié. C'est le corps qui permet la fécondité et c'est le corps qui permet l'amour d'amitié. Et c'est très important de voir ces deux aspects parallèles. Le point de vue du corps qui permet la procréation, qui permet la fécondité, c'est le point de vue de la sexualité. C'est le point de vue, donc, de ce que représente l'instinct de conservation de l'homme. Et le point de vue de l'amour d'amitié, c'est la sensibilité. Donc c'est la distinction entre le point de vue sensible et le point de vue sexuel, qui est tellement important à faire. Je dis bien distinction, hein, je ne dis pas séparation. Séparation, ce serait très faux. Mais il faut redécouvrir, dans la lumière de la sagesse de Dieu, comme il faut le redécouvrir au niveau proprement philosophie du vivant, une distinction capitale que le vieil Aristote avait fait. C'est pas parce qu'Aristote l'a faite que je reprends, mais je dis que c'est une distinction capitale. Vous voyez, une distinction analogue au sensible commun et au sensible propre. Il y a une autre distinction, analogue, je dis, totalement différente, hein, entre le point de vue sensible et le point de vue génétique, le point de vue de l'instinct sexuel. C'est une distinction qu'il faut essayer de comprendre, parce que la distinction du sensible est liée à l'individu et le point de vue de l'instinct sexuel est lié à l'espèce. Alors, il est bien évident que l'espèce n'existe que dans l'individu. C'est en ça qu'il ne faut pas séparer. L'espèce ne peut exister que dans l'individu. Et donc, nécessairement, l'instinct sexuel est lié à la sensibilité. Mais l'instinct sexuel n'est pas la sensibilité. La sensibilité est autre chose. La sensibilité, c'est l'individu. Et l'instinct sexuel, c'est l'espèce.